son, de la musique aux arts sonores. Je vais vous lire la carte de couverture. Une écoute continue ponctuée de bulles de faux silence, rêve ou cauchemar, telle serait la vie moderne. Flux de musac, micro-ambiance sonore, casque à réduction de bruit. Toute une polyphonie appareillée acclimate nos oreilles à des sonorités nouvelles. Effet de boucle, de delay, de feedback, timbre acidulé des musiques électroniques ou saturé de la noise. Voix auto-tunée de la pop ou chuchotée de l'ASMR. Le chant des oiseaux s'est fait plus rare que le vombrissement des drones, mais la nature a aussi ses sonographies inouïes. Lamento des baleines, sourde rémanescence des rayonnements cosmiques, consommables en format numérique. Bioacoustique, sonification, musique élargie continuée par d'autres moyens. Ce numéro décrit les reconfigurations de la culture audio résultant d'un nouveau régime de l'écoute. Il examine l'essor de sound studies, les écologies du son, la diversité des arts sonores, de l'installation au field recording, en résonance avec l'histoire récente des expérimentations musicales Stockhausen, Sunra, Reich, Radig, Olivero. Ce numéro a été conçu et dirigé par Elie During et Bastien Gallet. Et là, nous sommes avec Bastien Gallet dans le studio et je vais lui passer la parole.
Merci, merci Yves. Bonjour à tous et à tous. Alors, c'est vrai que cette quatrième dit bien de quoi il s'agit, hein, d'une extraordinaire extension du champ de l'audible. Non seulement nous sommes entourés de sons, mais en plus nous avons accès maintenant à des sons qui n'étaient pas audibles, qui n'étaient pas entendus il y a encore seulement quelques années. Donc c'était un peu l'ambition de ce numéro que nous avons conçu avec Elie During. Il y a 20 ans, je crois, on avait déjà... Critique avait consacré un numéro à la musique auquel j'avais participé. Et 20 ans après, il n'était plus possible de faire simplement un numéro sur la musique, sur les musiques contemporaines, sur l'état de la musique. Il faut forcément y inclure les sons, alors non seulement les sons musicaux, mais les sons aussi de l'art sonore et tous les sons produits, devenus audibles, qui nous entourent et qui font partie de notre quotidien, non seulement d'urbains, mais aussi de ruraux, hein, puisque l'évolution... La transformation de la biodiversité fait que ce paysage sonore aussi change à grande vitesse. Alors, donc pour ausculter cette pluralité de notre relation au sonore, hein, qui est à la fois affective, paysagère, corporelle, musicale, théorique, plastique, mais aussi violente, politique, hein, puisque les sons peuvent servir d'armes. Il y a une guerre sonore. Et un contrôle par les sons, comme on aura peut-être l'occasion de le voir. Et bien pour ausculter cette relation plurielle et complexe, voilà, on a fait appel à des philosophes, des critiques, des chercheurs et des chercheuses, des spécialistes des arts sonores et des sound studies, mais aussi musiciens et musiciennes, historiennes de l'art. Donc c'est aussi l'idée que pour accéder à ce champ en évolution constante, il faut l'approcher par une pluralité de disciplines. On ne va pas se contenter, par exemple, de la musicologie et de la sociologie. Hein. Il faut aussi d'autres types de recherches. Et c'est bien ce que font les chercheurs en sound studies. Hein. Alors, nous reviendrons peut-être sur ce terme. Hein. Études sonores et ces chercheurs en fait, multiplient les approches. Hein. Ils sont à la fois épistémologues, historiens et techniciens du son, et en même temps sociologues et musicologues. L'objet ici détermine effectivement une pluralité interdisciplinaire, voire transdisciplinaire d'approches possibles. Alors, le sous-titre du numéro, c'est « De la musique aux arts sonores », et effectivement... On allait rapidement dessiner un parcours quand même dans ce numéro qui commence par des expérimentations qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, tentent à mettre en crise l'art musical. Donc je pense à Pony Oliveros, je pense à Steve Reich, à Yann Radig, ou l'afrofuturisme, hein, puisqu'il est aussi question de Sun Ra et de George Clinton dans ce numéro. Donc c'est un moment où l'ordre musical, dans son autorité et aussi dans son côté très genré, est en quelque sorte critiqué, mis en crise par ses expériences, et aussi l'écoute traditionnelle, hein, structurelle, ou distraite, elle-même devient autre, devient écoute profonde, écoute quantique, écoute augmentée ou élargie. Donc c'est tous ces éléments paradigmatiques, disons, de la musique et de l'art musical qui sont critiqués et remis en cause par ces expériences. Donc on commence par là, hein, d'autant qu'on revient maintenant sur ces travaux, on redécouvre Oliveros, Stockhausen, Steve Reich, Yann Radig, c'est un certain temps qu'on la redécouvre, mais disons, on écoute aussi différemment grâce à elle. Et donc, de la musique à ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, c'est la naissance, hein, des arts sonores, de l'art sonore, sound art, hein, qui s'est fait à la croisée de l'art visuel, de l'art plastique et de la musique dans les années 60 aux États-Unis, et puis qui maintenant s'est propagé à travers le monde. Donc il y a ce parcours, de la musique aux arts sonores, et puis aussi au sound study, c'est-à-dire tous ces sons qui ne sont pas musicaux, ni forcément artistiques, mais qui envahissent notre quotidien. Comme effectivement ces casques à réduction de bruit, l'omniprésence d'une nouvelle forme de musac qui contrôle un peu notre quotidien et nos déplacements. Voilà, donc tout ça nous intéresse.
Oui, il y a même des analyses sur le MP3, sur
oui, tout ce qui concerne la compression, est une question centrale que Jonathan Stern, un des pionniers des sound studies, a analysé dans un grand livre qui a été traduit et publié aux éditions de la Philharmonie. Donc ça, oui, les sound studies s'intéressent aussi aux normes, hein, aux normes. Absolument. Qui ont déterminé à la fois l'enregistrement en tant que tel, mais aussi notre écoute, hein, puisque le MP3, la construction du MP3 et de la compression, c'est d'abord à partir d'une conception de ce que c'est qu'écouter. Quoi,
hein. Alors, par quoi est-ce qu'on commencerait si on donne un exemple?
Eh bien, on pourrait commencer par Pauline Oliveros, qui est une des grandes expérimentatrices, disons, de la musique et de l'art sonore
des
40 dernières années.
La resituer
peut-être rapidement. Peut-être qu'on peut écouter. Puis
on va écouter un morceau, alors.
On va parler après.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
tu ne la laisses en fond. Bon, moi j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde.
C'est une des grandes œuvres de Pauline Oliveros, Bye Bye Butterfly, une pièce électronique de 65. Alors Butterfly, c'est Madame Butterfly, c'est cette voix d'opéra qui tout à coup apparaît de manière impromptue, presque miraculeusement au milieu de cette pièce où dominait la musique électronique, c'est-à-dire deux drones. On a un drone dans les fréquences aiguës et un drone dans la fréquence grave, qui sont faits voilà, sur un synthétiseur maison, fabriqué, augmenté par Pauline Oliveros.
On est en quelle année ?
65. Hein, donc elle a commencé à expérimenter dans les années 50. Elle a déjà acquis une certaine technicité, un savoir-faire, disons, qui lui permet d'explorer d'autres horizons que la simple musique électronique, dont l'ajout de cette voix. Donc c'est aussi une pièce sur notre rapport un peu lointain à l'opéra, mais aussi sur la place de la femme dans la musique, qui n'était jusqu'alors quasiment que destinée à chanter sa propre mort, puisque voilà, l'opéra est cet art qui assassine ses sopranos, un art masculin, mais qui aime mettre en scène des femmes qui souffrent et qui meurent. Et ce qui est très beau dans cette œuvre, c'est qu'il y a un travail de delay. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait d'abord ça sur les drones, et puis ensuite elle le fait sur la voix de la chanteuse, qui est retardée, qui est répétée, retardée, avec des différences à chaque fois. Et ce travail sur le delay est vraiment central dans l'œuvre de Pauline Oliveros. Et c'est un rapport assez important avec son idée d'écoute profonde, qui deviendra écoute quantique. Ce travail permet aussi d'épaissir l'écoute, hein, c'est-à-dire d'obliger l'écoute à s'écouter elle-même, en quelque sorte, à écouter non seulement le présent, mais le passé qui revient. Donc élargir l'écoute du présent au passé et au futur, hein, c'est ça l'écoute élargie. Donc c'est à la fois au présent, mais dans ce qui l'entoure, quoi, dans le passé, dans le futur. Elle avait une sorte d'axiome, Pauline Oliveros, qu'elle a découvert assez jeune, c'était tout écouter, tout le temps, et se rappeler d'écouter quand on cesse de le faire. Hein, donc ça rappelle un peu l'axiome de Cage. Hein. Élargir l'écoute veut dire tout écouter, même ce qui n'est pas audible ou immédiatement audible, et surtout écouter tout le temps. Et ça veut dire à la fois tout le temps, mais ça veut dire écouter effectivement ce qui a eu lieu, et qui est encore présent, et ce qui aura lieu, et qui n'est pas encore entendu.
Oui, donc, hier, j'ai entendu parler de Chantal Akerman qui découvre le cinéma de Michael Snow en 67 à New York, et qui se sent vivre en regardant un film de Michael Snow qui est très lent et qui décrit rien. Et elle dit « c'est pas du temps perdu ». Et c'est là que son cinéma change radicalement. On est bien dans une époque qui expérimentait l'expérimentation.
C'est oui, pas du temps perdu, c'est du temps vécu.
C'est du temps vécu, c'est exactement c'est ce qu'elle dit. Ça. C'est exactement ce qu'elle dit.
C'est ça, donc... Et donc le travail sur l'écoute, qui est central chez Oliveros, c'est donc on a l'impression que ça suppose un rapport subjectif au monde. Bon, voilà, on va élargir notre écoute à ce qu'elle appelle la sonosphère, c'est-à-dire tous les sons, non seulement...
On devient attentif, quoi.
Non seulement les sons naturels, mais aussi les sons produits par la technosphère, mais aussi les sons de l'atmosphère lointaine, sphérique, etc. Mais en fait, il y a aussi une dimension mondaine. Hein. Il s'agit de penser le monde comme sonore et d'entendre le monde comme sonore. Hein. C'est ça aussi, l'écoute élargie. Et ça suppose de travailler avec un système instrumental lui-même élargi. Donc fait, par exemple, de plusieurs synthétiseurs et d'éléments échantillonnés qui vont interagir les uns avec les autres. Et qui vont, par des systèmes complexes de délai, donc de sons retardés, produire cet épaississement, on pourrait dire, hein, polyphonique de la durée et de l'écoute. Donc le son devient une sorte d'espace, en quelque sorte. Hein, et c'est comme ça qu'elle pense l'improvisation, Pauline Oliveros. On a fait un entretien autour de son travail avec Michael Santuri et Maud Jacquin. Maud Jacquin, c'était la commissaire de l'exposition à Béton Salon qui a eu lieu, où vous invitez des artistes à reprendre ces méditations sonores, ces Sonic Meditations, hein, qu'elle a composées dans les années 70 avec un ensemble de femmes. Donc c'était vraiment un travail à vocation féministe au départ. Et ce sont essentiellement des méditations, des improvisations collectives, égalitaire, inclusive, disons, où il s'agit de s'accorder, de se désaccorder les uns avec les autres, et soit avec les sons environnants qu'on va amplifier, ou au contraire...
Donc Béton Salon étant une galerie qui est dans le quartier de la Grande Bibliothèque, le long de la Seine.
Et Michael Santuri, qui était un ami de Pauline Véros, qui est un musicien, et qui coordonne un livre qui va réunir tous ses écrits, qui paraîtra prochainement à la Philharmonie. Donc, et donc ce qu'ils nous ont appris, enfin, dans cet entretien, ce qu'on a appris en s'entretenant avec eux, c'est précisément le fait que Pauline Véros est à la fois une très grande technicienne. Elle produit des sons, elle a toujours produit des sons, mais en même temps, elle est dans un rapport... social, collectif, avec le sonore. Donc on est vraiment dans cette ambivalence, hein, on pourrait dire, qui est aussi une dimension de complémentarité, quoi, entre une improvisation collective, la construction d'un groupe, par le son, par l'accordage, des accordages sonores, et en même temps un travail où il s'agit d'élargir l'écoute par l'instrument, par le travail instrumental. Et si je dis ça, c'est aussi pour faire écho à un bel article d'Ali During, cet ami philosophe avec lequel nous avons pensé le numéro, qui s'intéresse, lui, aux travaux de Günther Anders et Alfred Schütz, deux grands phénoménologues qui ont beaucoup travaillé sur l'écoute et la musique. Anders dans les années 30 et Schütz plutôt après la guerre. Et il y a cette idée pour eux de penser le son, si vous voulez, comme un monde. Le son comme un être qui est ni subjectif ni objectif, mais qui travaille précisément entre les deux un espace propre, un espace qui est immédiatement polyphonique, un espace qui est immédiatement complexe, et donc qui relève d'une phénoménologie renouvelée. Hein, pour Schütz, par exemple, le son est immédiatement un espace social, un espace collectif. Donc l'écoute est toujours déjà collective. Hein. L'écoute nous branche sur un monde social, puisqu'on ne saurait écouter seul. On écoute toujours à plusieurs. Hein. On est toujours précédé par d'autres dans l'écoute. Hein. Donc c'est ça que le son révèle. C'est un monde, en quelque sorte, qui est déjà aussi le monde social et le monde naturel. C'est cela aussi que Pauline Véros nous enjoint en quelque sorte à découvrir et à explorer.
Et on prend un autre exemple.
Allons-y, oui, tout à fait différent.
D'accord, bien.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Let me buy you a train. I'm T-Pain. You know me. Convict music, never boy. I know the club goes at 3. What's the chance until you rolling with me? Back to the crib. Show you how I live. Let's get drunk and forget what we did. I'ma buy you a train. I'ma take it home with me. I got money. Oh,
tell me how you feel, mama, tell me what you see. A certified dime piece, dessert Louis 1-3. 150 a shot, 3 for you and 3 for me. I'm checking your body language, I love the conversation. And when you lick your lips, I get a tingling sensation. Now we're both back tipsy, you say in the mood. All I need is about an hour, better yet, maybe two. Let me take you where I live, Ferrari switch gears. When I whisper in your ear, your legs hit the chandelier. Passion fruit and sex all in the atmosphere. I'ma let T-Pain sing it so he can make it clear.
I'ma buy you a drink.
Donc, hyper pop et autotune, la pop comme art sonore.
C'est ça, oui.
Un
ça,
article
c'est...
absolument passionnant.
Oui, c'est un entretien avec Guillaume Gay et Julia Kerman sur la pop, hein, sur la pop, à la fois comme art sonore et aussi comme pratique d'écoute, comme culture.
Magnifiquement inventive en ce moment.
Oui, absolument, entre les deux. Et là, c'est un très bon exemple. Hein. On écoute T-Pain, qui est un merveilleux rappeur américain du sud, hein, du sud des États-Unis. Il est né en Floride. Et c'est le morceau qui l'a rendu célèbre en 2007, Buy You a Drink. Et on voit qu'il fait usage de l'autotune. C'est un des premiers rappeurs à faire usage de l'autotune sur ce morceau qui est très émouvant. Parce qu'il raconte, en fait, il raconte une situation qui est commune. Dans les États-Unis, à Atlanta en l'occurrence, il est dans un street club avec son camarade Young Jock, qui est un rappeur qui l'accompagne ici, hein. Et ils essayent il parle à la stripteaseuse et puis il la drague, ils essayent de la convaincre de venir avec eux, danser avec eux, et plus éventuellement. Bon. Et en même temps, ils ne sont pas complètement convaincus par ce qu'ils racontent. Il y a quelque chose à la fois triomphant et mélancolique. Quoi. Et ça, l'autotune permet cela. Hein. C'est très émouvant pour cette raison. Et alors après, c'est un morceau qui a eu un énorme succès, mais qui a fait aussi beaucoup réagir le milieu du rap. 2007 et 2009, c'est le morceau de Jay-Z, Death of Autotune, la mort à l'autotune, et qui dit notamment Get back to rap, you T-paining too much. My rap don't have melodies. Hein, revenez au rap, hein, le rap n'a pas besoin de mélodie, vous T-paining too much, hein, vous faites trop de T-pain, trop d'autotune. Il faut dire que juste après, en 2008, Kanye West et Lil Wayne, de grands rappeurs un peu comme ça, un peu
hyper viril,
hyper viril, un peu agressif, se mettent à autotune et tout à coup font apparaître une dimension tout à fait nouvelle de leur musique et de leur
baby
voix,
baby voice,
quelque chose de vulnérable, ouais. d'un peu inquiétant. C'est des chansons d'amour très clairement où ils sont pas en position de force. Donc il y a toute une dimension nouvelle qui apparaît grâce à autotune et qui a un peu transformé, hein, le rap américain. Alors, en insinuant des éléments de R&B, quoi. Voilà, c'est un peu le reproche que Jay-Z fait à T-Pain. Et ça, c'est intéressant sur la question de la masculinité, la question du genre, évidemment. Donc on voit comment une technique peut produire des effets qui ne sont pas seulement des effets esthétiques ou des effets musicaux, mais qui sont des effets sociaux et politiques également, puisque ça change la réception, le rapport qu'on peut avoir au rap.
Je pense à Jean Sablon quand j'étais petit, qui était un chanteur qui susurrait, et donc il a fallu qu'il y ait un certain mode d'amplification pour qu'il puisse chanter en public, puis qu'il puisse exister comme chanteur. Il a fallu inventer des moyens techniques qui permettaient de ne pas aboyer.
Exactement.
C'est exactement ça.
L'enregistrement qui détermine le destin de la pop, puisque on peut dire que la pop, c'est de la musique enregistrée. Mais ce n'est pas seulement de la musique enregistrée, c'est aussi des cultures populaires,
ouais.
Des cultures sonores, puisque c'est un art de la masse. Donc c'est à la fois un art qui est à la fois sonore et en même temps commercial. Bon, il y a cette ambiguïté qui est très présente et qui fait que la pop a une puissance que n'a pas d'autre musique.
Hein.
Donc là, cet usage d'autotune
peut parler d'environnement,
changer l'écoute aussi de ceux qui écoutent du rap, l'écoute des rappeurs, l'écoute des fans de rap. Mais autotune a aussi eu un usage beaucoup plus radical dans l'hyperpop, par exemple, hein, ce grand mouvement où la pop à la fois se réfléchit elle-même en même temps. est en excès par rapport à elle-même, hein, devient quasiment baroque. Il y a dans l'hyperpop, voilà, autour du label PC Music et du producteur Eiji Koo dans les années 2010-2015, un usage d'autotune qui queerise, voilà, qui dégenre, qui crée des voix transgenres, voire des voix post-humaines, non-humaines, où là on voit que l'autotune sert littéralement à sortir de la binarité.
Cringe.
Oui, on arrive à effectivement, c'est une musique un peu cringe, on est dans l'inquiétant, dans la vallée inquiétante, dans la vallée étrange. Et on n'est pas très loin de Polyoniveros, hein, puisque Polyoniveros voulait promouvoir une écoute qui déployait tout le spectre du sonore. Hein.
Et un spectre, c'est continu. Une ambiance sonore. Oui,
c'est un spectre continu et donc qui déplie et déjoue complètement les oppositions binaires. Il n'y a plus d'opposition masculin, féminin, nature, culture, par exemple. Hein. On est dans un spectre continu. Et c'est un peu ça que l'autotune permet d'obtenir, quoi, de produire, c'est-à-dire une continuité entre le masculin et le féminin, nature et culture, puisqu'il y a des voix humaines qui deviennent des oiseaux, par exemple. Mais ce qui n'empêche pas l'autotune d'être aussi un puissant outil d'uniformisation et d'homogénéisation de la musique pop. Hein. C'est ça que lui reproche Jay-Z. Donc c'est les deux à la fois. Ouais. Voilà. À la fois, on peut en faire un usage créatif et changer l'écoute, et en même temps, on peut en faire un usage homogénéisant, purement commercial. Voilà, mille l'ont fait après le fameux morceau de Cher là, qui avait lancé l'usage dans les années 2000. Donc ce dialogue avec Julia Kerman, qui vient de sortir un livre sur l'hyperpop d'ailleurs, et Guillaume Huguet, qui est un des responsables de l'anthologie Pensée des musiques populaires, qui est paru à la Philharmonie, est très intéressant pour ça, pour montrer cette ambiguïté, cette ambivalence de la pop, qui est au fond un art de l'affect, quoi. C'est un art de l'affect, mais un affect qui est produit en studio, en quelque sorte. Hein. Donc il faut vraiment penser cette étrange hybridation entre des techniques et en même temps destinées à produire des affects qui vont emporter des masses, en quelque sorte, s'adresser à des masses. Bon. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant à étudier, la pop. Donc, c'est ça aussi qu'apportent les studies, hein, les cultural studies, et puis les musiques, popular music studies, mais aussi les performance studies.
Bon, on peut dire que le study, c'est fait appel à tout ce qui est populaire.
Au départ, c'était
l'idée du cultural studies, oui. C'était de pas seulement étudier les choses savantes, mais aussi étudier les choses populaires.
Absolument, c'était tout l'ambition du département de Birmingham et
en Angleterre, dans les années 50,
de Raymond Williams, où il s'agit
vraiment d'étudier les livres,
de me montrer qu'il y a une identité ou une
très forte
une dimension substantielle des cultures émergentes ou résiduelles, disait Raymond Williams, ou culture minoritaire, on pourrait dire. Culture ouvrière, par exemple, c'est même étudié par Hogarth.
Ça donnera le pop anglais. Hein,
les sous-cultures. Quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Il y a des cultures effectivement minoritaires ou minorées qui sont très importantes, qui sont très créatives et qui sont des rapports conflictuels avec les cultures majoritaires. Et la pop est un lieu parfait pour étudier ça, puisque la pop, c'est à la fois une culture majoritaire, enfin le son majoritaire, on pourrait dire, et en même temps, il est plein d'éléments minorants, minoritaires, étrangers qui vont la réinventer, la déplacer, l'emmener ailleurs, etc. Donc, c'est pour ça que les studies, voilà, sont une
discipline
pluridisciplinaire qui permet d'étudier cet entrelacement.
Il y a de quoi étudier, il y a un vrai contenu.
Entre l'homogénéisation et en même temps ce qui la déplace, s'y oppose et l'emmène ailleurs.
Voilà. Et donc nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et je parle avec Bastien Gallet d'un numéro de critique qui s'appelle Son de la musique aux arts sonores. Et alors, on prend un autre exemple.
Allons-y, tout à fait différent encore une fois.
شلون بدي أوصف لك يا برج المبنى بصير يعني بطلع الصوت من الجدران فما بتعود بتميز أنت يا عجب فوق ولا تحت بصير المبنى هو بيعطي صدى الجدران بتعطي صدى للصوت.
For a sound to vibrate the walls of a room from two stories above through security grade thick concrete, it would need to be of a magnitude that no human strike can create. And yet all of the witnesses insisted to me that the walls of their cells shook from the beatings that took place in distant and unlocatable areas of the prison. Later I understood why, The shape of the building, the dimensions of the corridors, meant that sounds made in the cells are reflected towards a central tower. This is a listening tower, allowing guards positioned here to hear everything happening in all the cells across the three wings. This listening tower has a staircase spiraling all the way from the basement to the roof, and it creates an opening, and so a great column of air stands in the center of this building. All the sounds made in the prison are by design directed towards this listening tower, making this column of air act like a huge megaphone, funneling and forcing sounds throughout the three wings in ways that defy proximity. The sometimes shrill hiss of a whisper spoken in cell A, wing 3, could be heard louder in wing 2, for example, than in its neighboring units. There was one sound, however, that wherever it occurred, all the cells in each of the three wings would hear it. This was the sound of the thick green plastic plumbing pipe striking a human body. As it is completely forbidden inside Naya to utter a sound of pain when one is being tortured, witnesses heard only the sound of this half a centimeter thick pipe with a 4 centimeter hole in the middle striking a corporal surface. At the moment of its percussion, its vibrations catapult the air out of both ends of the hollow pipe, creating a blast wave like the gases firing out of the muzzle of a gun. The walls shudder, not from the force of the strike, but from the blast's resonance.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une installation audiovisuelle, donc on n'entend que la bande-son, de Lawrence Abou Hamdan, qui est un artiste sonore et un expert audio pour les tribunaux internationaux, les ONG, qui est d'origine jordanienne et qui vit au Liban. Donc l'installation s'intitule World Unwalled, date de 2018, et donc là on entend la fin en quelque sorte de l'installation, la fin en tout cas de la bande-son. On a entendu donc une voix en arabe, donc c'est un prisonnier de la prison de Sadnaya, qui est une prison de haute sécurité militaire qui se trouve à 30 km de Damas, donc en Syrie. Et voilà, qui est une prison qui est gérée directement par le gouvernement syrien et dans laquelle on a torturé et assassiné principalement des opposants politiques au régime, des dissidents à partir de 2011 puis 2016. Et à la demande d'Amnesty International et de Forensic Architecture, hein, qui est un groupe qui est une ONG qui étudie ces questions, ils ont demandé à Lawrence Abou Hamdan d'étudier cette prison et de reconstituer son architecture. Voilà. Et donc il a interrogé des prisonniers qui, miraculeusement, sont sortis vivants de cette prison, évidemment pas indemnes. Et grâce à leur témoignage, qu'on a entendu une personne témoigner au début de l'enregistrement, il a pu reconstituer l'architecture. Il faut savoir que les prisonniers de Sadnaya étaient emmenés là-bas les yeux bandés, qu'ils étaient maintenus dans une obscurité presque complète, qu'ils ne devaient prononcer aucun son, même quand ils étaient torturés. Il ne fallait pas qu'ils crient. Et donc il est très complexe dans ces conditions d'avoir des témoignages qui permettent quelque sorte à la fois de dire à quoi ressemblait la prison, mais aussi ce qu'on y faisait, les tortures qui étaient pratiquées. Et donc pour ce faire, Abou Hamdan a longuement travaillé avec ses prisonniers pour faire surgir de leur mémoire auditive des éléments qui lui permettraient de reconstruire non seulement la prison, mais tout ce qu'on y faisait, hein, les exactions commises par le gouvernement syrien et ses sbires. Donc il a démontré, hein, ce qu'on entend là, hein, en fait, que la prison était conçue selon un modèle est-allemand, hein, où on a un escalier central depuis lequel on entend tout ce qui s'y passe. Hein, donc c'est une prison aussi acoustique, hein, où les gardiens entendent depuis un certain nombre de points dans la prison, tout ce qui s'y déroule. Mais inversement, les prisonniers aussi entendent beaucoup de choses qui se déroulent dans la prison, et donc c'est ce qu'il dit. Hein. En reconstituant leur mémoire auditive, leurs souvenirs, ils disent, ils décrivent là, des tortures, des coups portés à différents endroits, et quelquefois à l'autre bout de la prison. Hein. Donc en quelque sorte, ce caractère panacoustique de l'architecture, c'est ce qui permet à Abou Hamdan, avec ses prisonniers, de reconstituer à la fois l'espace et ce qui s'y déroulait. Et donc, ça vaut hein, comme témoignage.
Comme valeur de témoignage.
Auprès d'une juridiction internationale. Donc il s'agit aussi de créer une nouvelle figure qui est celui de témoin auditif. Hein, qui est un témoin qui est toujours considéré comme évidemment problématique et peu fiable, à différents témoins visuels. Mais en fait, quand on travaille vraiment avec quelqu'un, on peut, grâce à son oreille, à l'écoute, reconstituer véritablement une scène.
Dans un panoptique sonore.
C'est ça, c'est le panoptique sonore. Et alors ça, c'est une dimension du travail de Boham Dan qui témoigne, enfin qui lui-même est expert et donc travaille à produire des témoignages ou des analyses qui ont une dimension de preuve ou d'indice dans des procès. Mais il est aussi artiste et donc il fait à partir de ça des œuvres souvent audiovisuelles qui sont tout à fait frappantes. Alors il était présent au Festival d'automne à Paris là, récemment. Pour deux performances, dont une très belle performance intitulée Air Pressure, qui est consacrée voilà, à la guerre sonore qu'Israël livre au sud Liban depuis une dizaine d'années.
Il y a le bruit des drones en permanence.
Voilà, avant la guerre véritable, hein, ben, il y avait une guerre larvée qui est une guerre sonore. Qui est faite voilà, de ces avions à réaction qui passent en rase-mode, de ces drones, de tous ces éléments qui
ils franchissent le mur du son.
Voilà, qui produisent une sorte de violence quotidienne hein, sur des populations civiles.
C'est très angoissant l'idée d'un bruit qui dure, qui est dans le ciel et qui est au-dessus. C'est la voix du Père.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et donc ça suppose un travail d'enquête très long. Il a recueilli toutes sortes de vidéos de Libanais qui filmaient les avions, mais aussi des données qui étaient envoyées à l'ONU par le gouvernement libanais. Et il a montré que la présence israélienne dans les airs était littéralement incessante. C'est des milliers d'heures de présence et de violences subies.
Et donc c'est pas du tout le sujet, mais on a tué par l'intermédiaire du son tous les membres du Hezbollah.
Par ailleurs, le son peut être une arme.
C'est une transmission sonore. Quoi.
Donc il y a un très beau livre de Steve Goodman, La guerre sonore, qui fait l'objet d'un article de Céline Hervé dans le livre.
Dans la revue,
dans le numéro de la revue. Alors pour finir avec Air Pressure, ce que montre Boham Dan, c'est pas seulement cette violence quotidienne et politique, hein, subi, mais c'est aussi le fait que le manque d'électricité des populations civiles au Liban les oblige à mettre en place des groupes électrogènes
très bruyants,
voilà, qui couvrent à peu près exactement le bruit des avions. Donc ils sont pris entre deux bruits, le bruit
et tous angoissants
d'Israël et le bruit de l'incurie en quelque sorte du gouvernement et de l'État libanais.
Et la guerre, quoi.
Voilà. Et cette enquête accompagne une recherche aussi généalogique sur les origines, voilà, des questions de santé publique que pose le survol par des réactions voilà, des territoires civils, qui remonte à un médecin qui, dans les années 50 en Allemagne, a étudié les effets sur la santé publique des exercices de l'armée américaine qui avait une base aérienne en Allemagne de l'Ouest. Et étonnamment, cette chercheur a dû s'exiler en Israël pour finir ses recherches. Et donc tout ce travail qui relève de l'art sonore, on pourrait dire, est un travail aussi qui relève des sound studies, c'est-à-dire de ces chercheurs qui vont étudier.
Ouais, on voit la richesse du domaine.
Voilà, les effets du son, mais aussi la manière dont les normes sont constituées, sont produites. Tout ce qui dans le son relève des questions politiques, sociales, du genre, de la race. Et donc le son comme manière aussi d'explorer tous ces aspects-là hein, du monde social.
On pourrait prendre encore un exemple dans la revue, on écoute encore un morceau.
Ah oui, bien sûr.
Juste pour rendre justice à la revue.
Absolument.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
Donc là, ici, il s'agit de La Selva de Francisco López, hein, qui est une œuvre tout à fait emblématique, bon, il y a quelques années maintenant, donc d'un très grand musicien et field recordiste, hein, quelqu'un qui enregistre des sons et des paysages sonores. Là, c'est des sons qu'il a enregistrés au Costa Rica, dans la forêt
oui, on entend que c'est...
équatoriale. Et ce qui est très beau, c'est qu'il se revendique pas lui-même comme un musicien concret, uniquement comme un field recordiste, quelqu'un qui tient au caractère naturel des sons enregistrés, puisque il fait un travail aussi ensuite de mixage, de montage, qui transforme, hein, les sons enregistrés. Donc on est entre la pré-prise de son. Entre guillemets naturel, puisqu'elle n'est jamais naturelle, puisqu'elle a pris le son, je suppose, un
cadre. Jamais, oui, il y a des...
Et la musique acousmatique, électroacoustique. Hein. Donc, cette ambiguïté-là est vraiment centrale dans le travail de Francisco López.
Mais en fait, on voulait écouter un autre morceau.
Oui, mais ça, c'est aussi un hommage à l'article de Pauline Nadrini, qui est un très bel article aussi dans le numéro de critique, et qui s'appelle Un printemps silencieux, hein, un hommage au livre sur les pesticides qui avait fait un scandale aux États-Unis à l'époque.
Et très tôt, ça.
Un livre qui pose la question justement des rapports entre son naturel, son artificiel.
C'est le premier livre sur l'écologique, en fait. C'est ça, oui.
C'est ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ah!
ひとつ予定通りに行かなかった日困っています。
un morceau de Fiu, qui est une artiste japonaise, un extrait de son album Voice Hardcore 2017. Donc le morceau s'intitule In the Doghouse. Alors Fiu est une figure assez importante de la scène alternative japonaise. Elle était c'est une des grandes représentantes du mouvement punk dans les années 80. Elle a monté des groupes assez importants et elle a un travail vocal où elle transforme sa voix. est toujours au bord d'une sorte de cri lofi comme ça. Elle n'est pas dans la noise véritablement, mais dans une transformation assez punk de sa voix, à laquelle elle mêle des sons électroniques et qu'elle enregistre chez elle dans sa chambre à Tokyo. Et alors c'est en référence à un article de Catherine Guez dans le numéro de Critique autour d'un livre extraordinaire de David Novak sur la Japanoise et l'idée de feedback. Et Catherine Guez dans ce texte montre comment la noise, noise japonaise, n'existe pas comme genre avant d'avoir été écoutée, entendue, reprise par les amateurs nord-américains de ces musiques extrêmes. Donc c'est un genre musical littéralement qui est né d'un phénomène de feedback, donc une boucle de rétroaction culturelle entre le Japon et les États-Unis. Ça, c'est ce que montre David Novak dans son livre. Et le feedback, c'est aussi évidemment la technique majeure principale des musiciens noise, par ailleurs, qui créent des systèmes instrumentaux instables, qui jouent sur le feedback, le seuil de feedback, et qui se laissent littéralement excédés par le son qu'ils produisent. L'idée, c'est de créer un système hors de contrôle, qu'on va contrôler un peu néanmoins, et qui fonctionne sur le feedback entre table de mixage, synthétiseur, micro, guitare, micro de guitare, etc. Bon. Et ça, c'est évidemment Merzbow, Solmania, Massona, enfin tous les grands musiciens.
Dans une culture beaux-arts. Voilà.
Alors, ce qui est fascinant, c'est que dans les années 80, ils forment un isola au Japon, et personne ne les connaît en quelque sorte.
Ils n'ont pas de public.
Non, c'est pas un genre musical. Ils expérimentent, ils improvisent avec la technique, et puis c'est l'écoute de ces musiciens qui passent souvent par l'envoi de cassettes audio d'ailleurs autour de Portland sur la côte ouest des États-Unis dans les années 80-90 que le genre se constitue et ce sont les Américains qui vont appeler ça Japanoise quoi. Tellement c'est bizarre pour eux c'est la Japanoise et donc l'effet de rétroaction pour conséquence que les Japonais vont s'identifier à ce que les Américains ont nommé comme genre et donc amplifier, transformer.
Mais tout au long du XXe siècle, il y aura des avant-gardes japonaises qui n'auront jamais de public local, mais qui sont toujours très présentes, même dans les années 20. Ils avaient toujours des artistes d'avant-garde sans public.
Absolument, oui. Donc là, le public est venu d'abord extérieur. Oui.
C'est la notoriété extérieure.
Comme effet retardé, comme delay, en quelque sorte, le fait d'avoir un public aussi au Japon. Et donc là, on voit que toute la question de la circulation des biens culturels, des marchandises sonores, est complètement repensée, puisqu'il ne s'agit plus d'une simple réception, mais d'un mouvement en retour, d'un mouvement rétroactif, où on a un effet de la réception sur l'émetteur, en boucle, comme ça, de rétroaction, qui produit des effets de feedback. Et ça montre aussi que la mondialisation ne produit pas uniquement une homogénéisation, par exemple, des cultures sonores, mais au contraire, à différents moments, par effet de feedback locaux, va permettre à des cultures sonores très particulières, très originales, très inventives d'exister. Quoi. Donc on sort comme ça de cette vision un peu trop simpliste quoi, des mondialisations comme producteur d'un phénomène d'homogénéisation sonore à l'échelle du globe. Et donc ça, c'est un autre des travaux possibles, des pistes de travail possibles des sound studies, ici dans le champ de la circulation des biens musicaux, des biens sonores. Et on voit la richesse, la richesse extraordinaire de cette approche interdisciplinaire. Alors plus pour revenir un peu sur les arts sonores, puisqu'en fait on écoute des arts sonores finalement depuis le début, on peut même considérer que la musique est une sorte d'art sonore, une espèce d'art sonore finalement parmi d'autres. Le grand changement de paradigme qui a rendu l'art sonore possible, c'est d'abord la naissance du concept de son. Il n'y a pas toujours eu un concept unifié de son comme effet audible, comme effet auditif. Et c'est un concept qui naît au milieu du 19e siècle, ça c'est ce qu'a démontré Jonathan Stern dans son très beau livre sur la modernité sonore. Et surtout, il montre que l'oreille n'est pas seulement un organe sensoriel, mais un dispositif transducteur. Et c'est sur cette base-là, l'oreille transduit des ondes aériennes en, en, en son audible, que toutes les techniques de reproduction et d'enregistrement du son va se constituer, hein, à partir de ce modèle, en quelque sorte, artificiel, mécanique, transductif de l'oreille. Et l'art sonore, c'est ça. L'art sonore, c'est finalement une manière d'écouter en transduisant, une manière d'écouter en sonifiant, hein, c'est-à-dire en transformant en son ce qui n'est pas audible, ou ce qui est audible, mais sous une autre forme. Donc sonifier du non sonore, donc écouter le temps qu'il fait, écouter les astres, écouter ce que fait Pauline Véros avec synthétiseur, qui sont des manières aussi de produire des sons avec du non entendu ou de l'inaudible. Et c'est pour ça que cette écoute-là, hein, cette écoute que l'art sonore a constituée, qui est écoute historiquement située, cette écoute-là je pense, importante, centrale pour penser à la fois le monde dans lequel on vit et les sons et les musiques qui sont produits.
On pourrait dire que c'est d'actualité plus que jamais avec l'apocalypse écologique qui se prépare. Maintenant, on écoute les oiseaux, par exemple, puisqu'on nous dit que les moineaux ont disparu. Quand on marche dans les rues parisiennes, on cherche le bruit des moineaux. On connaît les endroits où il y en a.
Donc il faut quelque sorte, il faut les trouver.
Alors qu'avant, j'allais à la gare de l'Est prendre le train, il y avait des moineaux sur les tables. Il y avait une fois un garçon de café qui en avait écrasé un du pied, tellement il y en avait. Et maintenant, on est obligé d'être très attentif à ce qui reste.
Il faut les chercher, il faut les extraire de l'environnement, il faut les trouver, il faut les préserver à la fois par le son et en même temps par.
Il y a des gens qui entendent les plantes pousser, j'imagine. C'est peut-être même les arbres.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le mot sonic qu'on retrouve beaucoup, hein, sonic turn, sonic bodies, voilà.
Oui.
Et le mot sonic, en fait, c'est différent du mot sound en anglais. Hein. Donc sonic veut dire, non pas sonore, mais en quelque sorte prendre la place du son, être au lieu du son, écouter depuis le son, dans le son en quelque sorte. Hein.
C'est une phénoménologie.
Et donc ça ne veut pas dire forcément écouter du son, mais prendre le point de vue du son. Et ça, c'est la richesse de la langue anglaise, qu'on ne veut pas traduire sonique, hein. On peut le traduire par néologisme, mais ça ne parle pas en français. Et qu'est-ce qu'une pensée sonore, une pensée sonique, qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple, hein. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en œuvre, une pensée qui prend pas la forme de son, mais qui pense depuis le son, en quelque sorte. Hein. Il y a un travail extraordinaire de Hendrickès, par exemple, sur les sound systems jamaïcains, où il montre qu'il y a une pensée du sonore depuis...
On est à la fin, mais le générique de fin qui va passer, c'est un film suédois ou danois, mais je pense qu'il était suédois, qui n'est fait qu'avec de la musique sur des objets, qui est très beaux-arts. C'est ce qui passe là.
Ouais.
C'est un travail sur le son. Là, il y a un homme qui est en train de se faire opérer du cœur, et ils font la musique avec tous les instruments chirurgicaux, les prises de tension, tout ça.
On dirait du Matmos un peu, non ? Les Matmos fait un peu ça.
Ouais, voilà, c'est un film, donc c'est une comédie, mais très très beaux-arts. Donc là, c'est le tu de la tension cardiaque. En tout cas, merci, j'étais avec Bastien Gallet, c'était formidable, c'était sur la revue critique Son de la musique aux arts sonores. Merci et à la semaine prochaine. C'était La vie est un roman sur Allegre FM 93.1. Merci à Didier Robert qui est de l'autre côté de la vitre. Merci Didier.
FM 93.1.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de l'émission Musique de film dans Vive le cinéma sur Aligre FM, conçue par Benoît Basirico en partenariat avec Cinésique.fr.